Jean-Pierre Langelier, bonjour.
Bonjour.
Quand on passe plusieurs mois avec un personnage, on finit par le trouver souvent sympathique. Est-ce que Mobutu est un personnage sympathique ?
Il n'est pas totalement antipathique. Il est intrigant, par certains côtés attachant, je dirais, surtout dans sa jeunesse. Parce que à partir du moment où ses défauts prennent le pas sur ses qualités, ça devient un peu moins facile de l'apprécier.
Oui, et après vous dénoncez à la fois sa traîtrise et sa cruauté. Dans les 4 années qui précèdent l'indépendance, le jeune journaliste est un ami très proche de Patrice Lumumba. Mais déjà, dites-vous, il joue double jeu au profit de la sûreté coloniale belge et de la CIA.
Oui, ça permettait surtout d'attirer l'attention sur le fait que Mobutu, très jeune, était très très bien informé et très malin. Donc, il n'était pas seul à travailler. Comme je le dis dans le livre, Lumumba l'a su et lui a pardonné ça facilement. En disant, mais maintenant, de toute façon, il est devenu proche de moi et il ne me trahira pas.
Ce en quoi Lumumba s'est bien entendu trompé.
Il s'est trompé. Le moins qu'on puisse dire que si Mobutu avait voulu sauver Lumumba, il aurait pu le faire. Il n'a rien fait pour. J'ai retrouvé récemment une photo assez terrible qui n'est pas très répandue, où on voit Lumumba avec ses 2 compagnons par terre, ligotés, avec Mobutu en short qui les regarde avec mépris.
Alors, tout cela, c'est donc en 1960. C'est en septembre 60 que le colonel Mobutu prend le pouvoir une première fois, et vous dites que tout part d'une dépêche envoyée de Washington par le directeur de la CIA, Alan Dulles lui-même, au chef de poste de la CIA au Congo, Larry Devlin.
Oui, parce que Larry Devlin a repéré à Bruxelles Mobutu. Il s'est rendu compte que c'était un des plus intelligents de la bande. Parmi les nombreux participants, enfin la 20aine de participants à une des conférences qui ont précédé l'indépendance, et Mobutu est le seul du groupe à y avoir été militaire. Et Lumumba lui dit, il en fait son secrétaire particulier, et il lui dit, écoute, lors d'une réunion de cabinet, va te chercher un uniforme, tu reviens, je te nomme colonel. Et voilà comment il devient le chef de l'armée.
Alors ça, c'est au tout début du gouvernement Lumumba, dans les premiers jours. Mais un mois et demi plus tard, tout va se gâter. Et à ce moment-là, la CIA, vous le dites, pousse Mobutu à chasser Lumumba du pouvoir.
Absolument. Et pas seulement la CIA. En quelques semaines, Lumumba se met tout le monde à dos. Et d'abord les Belges, qui, ne l'oubliez pas, auront un rôle crucial dans son assassinat. Dans les archives belges, il y a des choses très très nettes, il faut le supprimer.
Janvier 61, c'est donc l'assassinat de Patrice Lumumba.
17 janvier, oui.
Et vous dites que Mobutu a joué les Ponce Pilate.
Bien sûr, il a joué les Ponce Pilate parce qu'il savait très bien ce qui arriverait à Lumumba.
Et s'il était livré à Tchombe.
Il le met dans un avion et puis après, il s'en débarrasse.
Est-ce qu'on peut dire que ce 17 janvier 61, c'est la grande trahison de Mobutu ?
Oui, on peut le dire, oui. Alors, normalement, on ne trahit que son ami. Mais les hommes ne sont plus vraiment amis ni complices politiquement depuis déjà 6 mois. Et donc, c'était quelque chose de prévisible. Il s'est passé beaucoup de choses entre-temps. Il y a les Soviétiques qui très clairement veulent prendre le contrôle des richesses du pays. Il y a des maladresses de Lumumba qui met des journalistes en prison. Et Mobutu a d'ailleurs sauvé la vie déjà 1 ou 2 fois de Lumumba qui était menacé par ses propres soldats. Ça, ce sont des faits. Mais il l'a maintenu en résidence surveillée et Lumumba n'est pas un homme à se laisser faire. Donc il continue à, en quelque sorte, creuser sa propre tombe en tombant dans le piège que lui tendent les Occidentaux via Mobutu.
En novembre 65, le général Mobutu prend le pouvoir une deuxième fois, mais vous dites que sa vraie confiscation du pouvoir, c'est 6 mois plus tard, à la Pentecôte 66, quand il fait condamner à mort et pendre 4 malheureux hommes politiques qui l'a fait tomber dans un piège. Et vous comparez Mobutu au premier consul Napoléon Bonaparte, pourquoi ?
Alors je le compare à l'assassinat du duc d'Enghien. Ce jour-là, il montre qu'il est prêt à tout pour instaurer la terreur. Et ça a marché, puisque pendant 30 ans, après, tout le monde va être calme. Il faudra attendre les années 80 pour que les premiers opposants se réveillent, notamment Étienne Tshisekedi, et aient le courage de plaider pour le multipartisme.
Et vous dites qu'avant la pendaison de ces 4 malheureux, Mobutu reçoit du monde entier des demandes de grâce, y compris du Vatican, mais il les rejette en s'inspirant de Machiavel.
Le livre est là, Larry Devlin l'a remarqué, et William Close, le médecin personnel de Mobutu, médecin américain, entre parenthèses, le père de l'actrice Glenn Close, on discute avec Mobutu. Intéressant ce livre,
n'est-ce pas ? Un prince doit être mieux craint qu'aimé.
Ah, totalement. Ça, il a assimilé cette leçon avec un petit bémol. c'est qu'il aime bien être aimé aussi. Et il le dit plusieurs fois, notamment dans un film de Thierry Michel. Vous vous rendez compte comme le peuple même. Bon, le problème est de savoir s'il y croit ou pas.
En octobre 68, vous racontez le terrible supplice que subit Pierre Moulélé dans un camp militaire de Kinshasa. On se demande à ce moment-là comment un homme comme Mobutu, qui a un certain humour, qui a une certaine culture, peut montrer une telle cruauté.
En fait, je crois que depuis le début, il a décidé de l'attirer dans un piège. Et Moulélé a été très imprudent.
Et pourquoi une telle cruauté?
Mais je crois que c'était en partie une revanche. Le fait que, pendant des années, Moulélé, qui lui non plus n'était pas un tendre, avait dirigé une rébellion de massacreurs. Chaque fois que Mobutu a fait des promesses de ce style, il ne les a jamais tenues.
Le tyran savait être séducteur.
La preuve, il a quand même réussi à séduire tous les chefs d'État de la planète, depuis Kennedy lorsqu'il dirigeait l'armée, jusqu'à De Gaulle lorsqu'il est devenu président. Mao, qui l'a reçu deux fois, en lui tressant des louanges et en lui disant « Mais dans les années 60, il y avait une rébellion que nous soutenions, mais c'est vous qui aviez raison. »
La rébellion de Pierre Moulélé, justement.
Pierre Moulélé et d'autres, de Gisinga, et même celle de Kabila. Et donc, tous ces hommes ont dû trouver chez Mobutu des raisons d'être séduits par lui. Mais ce qui comptait, évidemment, c'est autre chose, c'est l'importance stratégique de son pays.
Jean-Pierre Langelier, vous avez retrouvé l'origine du mot Zaïre, le nom qu'a porté le Congo pendant de nombreuses années.
Oui, ça a été raconté par un homme qui s'appelle Jacques de Groot, qui était conseiller économique principal de Mobutu, un Belge. Et un jour, au cours d'un dîner avec le gouverneur de la Banque centrale, Albert Ndélé, et un ethnologue, M. Vansina, la suggestion a été faite par ce dernier, M. Vansina. On crée une monnaie, c'était en juin 1967. Comment pourrions-nous l'appeler? Et à ce moment-là, il a suggéré que ce serait le mot Zaïre, qui est une déformation, un zadi d'un mot Kikongo, que les Portugais avaient mal interprété.
Lorsqu'ils avaient découvert l'embouchure du fleuve Congo.
Et donc, c'est ce jour-là, en effet, que ça a été décidé. Et le lendemain matin, Ndélé a téléphoné à Mobutu pour lui dire, Mobutu est absolument emballé, il a dit, mais c'est formidable.
Alors, on connaît la façon dont Mobutu a raté sa sortie, il y a tout juste 20 ans. Et vous dites, s'il avait quitté le pouvoir 7 ans plus tôt, peut-être aurait-il laissé un moins mauvais souvenir dans l'histoire.
Ah, moi j'en suis sûr. Après tout, il avait lancé lui-même l'idée du multipartisme.
C'est juste après la mort de Ceausescu. Hein.
Bien sûr, il a senti le vent d'Est souffler sous les palmiers. Il a été traumatisé par la mort de Ceausescu. Son ministre de l'information de l'époque l'a raconté. Il se repassait les images en boucle. Et comme il était très lié à Ceausescu, il s'est dit, c'est le genre de choses qui peut m'arriver. Et puis il s'est rendu compte, très vite, que l'Occident allait le lâcher. Et donc,
Pourquoi il s'accroche alors?
Mais il s'accroche parce que c'est un homme qui a toujours dit qu'il ne renoncerait jamais, qu'il mourrait président et qu'il mourrait dans son pays. Or, ce sont deux paris qu'il n'a pas gagnés. Et donc, il ne peut plus, et c'est ça quand même ça le point central, politiquement, il ne peut plus exploiter sa rente géostratégique à partir, bien sûr,
de la fin de la guerre froide. Ouais.
C'est la fin de la guerre froide. Et en plus, un nouveau président arrive, Clinton, aux États-Unis, Clinton qui avait dit, mais Mobutu, lorsque j'étais étudiant, il était déjà président. Lorsque j'étais gouverneur, il était déjà président. Lorsque je suis président, il est encore président. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Et bon, les Américains l'ont trahi. Mais il a quand même été encore soutenu par la France jusqu'au bout, par Mitterrand même. Pourquoi? Parce qu'il y a eu les événements du Rwanda et que la France a eu besoin de lui pour utiliser l'Est du Zaïre comme base arrière de l'opération turquoise.
Là, c'est en 94, mais après le départ de Mitterrand, il est encore soutenu deux ans par Chirac.
Bien sûr, par Chirac. Et il souffle à ce moment-là. Il se dit, oulala, c'est formidable, je vais pouvoir tenir encore. Il est malade en plus, bien qu'il ne le reconnaissent pas. Et il est le chef, il n'a aucun doute que ça n'est pas à lui de partir. Et jusqu'au bout, le dernier jour, lorsqu'il quitte Kinshasa, et même lorsqu'il quitte Badolité, c'est-à-dire les dernières 24 heures, il ne veut pas partir. Et on le met quasiment de force dans la voiture.
Vous dites que c'est son fils Zanga qui le raisonne.
Oui, c'est ça. Et puis aussi le chef de la sécurité.
Et vous dites que les soldats de sa propre escorte, quand ils se rendent compte que Mobutu va décoller, tirent sur son avion.
Voilà, les gens de la DSP, la division présidentielle, qui sont les gens théoriquement les plus proches de lui, tirent sur l'Ilyushin, l'avion cargo.
Et vous avez ce mot terrible contre Mobutu, vous écrivez « Il n'eut jamais l'humilité de demander pardon ».
Exact. Et s'il l'avait fait, je pense que l'image serait aujourd'hui bien différente. Parce que c'est un pays, le Congo, qui est très chrétien, qui cultive la culture du pardon, justement. Et je suis sûr que les Congolais se souviendraient quasiment uniquement des bons côtés, de l'éclat, de l'importance que leur pays avait sur la scène internationale à l'époque et de la gloire qui était attachée au chef. Mais ils ont beaucoup oublié les mauvais moments parce que depuis, eh bien, le Congo, hélas, ne s'est pas sorti d'affaire et que ses deux successeurs, Kabila, père et fils, n'ont pas été plus démocrates que lui, mais en plus, ils n'ont pas eu son charisme.
Jean-Pierre Langelier, merci.